Chapitre 3. La beauté des cordes. Si vous pouviez le dire avec des mots, il n'y aurait aucune raison de le peindre. Edward Hopper. 1. À la sortie du rond-point, Madeleine accéléra et manqua de griller un feu au croisement de l'allée de Longchamp. Après son déjeuner avec le galeriste, elle avait loué un scooter chez un concessionnaire de l'avenue Franklin Roosevelt. Pas question de perdre son après-midi à se disputer l'atelier de Lawrence avec un Américain bourru. Elle s'était donc garée près des Champs-Élysées, puis avait parcouru les stands du marché de Noël. Sa promenade n'avait pas dépassé un quart d'heure tant les chalets de bois alignés des deux côtés de la prétendue plus belle avenue du monde lui avaient donné le cafard. Baraque à frites, revendeur de gadgets made in China, odeurs écœurantes de saucisses et de churros, on était plus proche ici d'une ambiance de fête foraine que des Noëls blancs des contes de son enfance. Déçue, elle avait battu en retraite, d'abord en direction des vitrines du BHV, puis sous les arcades et dans le jardin de la place des Vosges. Mais pas plus que sur les champs, elle ne trouva ce qu'elle cherchait. Une once de magie, un soupçon de féerie, un peu de l'esprit de Noël des vieux Christmas carols. Pour la première fois, elle ne se sentait pas bien à Paris. Pas à sa place. Elle reprit sa Vespa, abandonnant les groupes de touristes, leur jacassement fatigant et leur perche à selfie, qui à tout instant menaçait de vous éborgner, pour rouler sans destination précise. Dans sa tête, les couleurs et les arabesques de Lawrence continuaient à danser et à se déployer. Elle prit alors conscience que sa seule véritable envie était de poursuivre son voyage avec le peintre, de se laisser emporter par ses vagues de lumière, de se perdre dans les nuances de sa palette, d'être éblouie par ses éclats radieux. Mais Bernard Bénédicq l'avait prévenu. Il n'y a qu'un seul endroit à Paris où vous pouvez espérer apercevoir une toile de Sean Lawrence. Bien décidée à tenter sa chance, Madeleine mit le cap sur le bois de Boulogne. Comme elle n'était pas familière du lieu, elle gara son deux-roues dès qu'elle en eut la possibilité, près des grilles du jardin d'acclimatation et continua son trajet à pied, longeant l'avenue du Mahatma Gandhi. Le soleil affirmait à présent sa victoire totale sur la grisaille. Il faisait bon. Des poussières d'or poudroyaient çà et là dans l'air humide. Autour du parc, pas l'ombre d'un syndicaliste ou d'un manifestant en colère. Les poussettes, les nounous, les cris des enfants et les marchands de marrons chauds investissaient l'espace dans une ambiance bon enfant. Soudain, un immense vaisseau de verre surgit entre les branches des arbres déplumés. Drapé dans ses voiles cristallines, la fondation Vuitton se découpait sur un ciel céruléen. Selon l'imagination de chacun, le bâtiment évoquait un gigantesque coquillage de cristal, un iceberg à la dérive ou un voilier high-tech battant pavillon de nacre. Madeleine acheta un billet et pénétra dans l'édifice. Le hall était vaste, clair et aéré, avec une ouverture sur la verdure. Elle se sentit tout de suite à l'aise dans ce gigantesque cocon de verre et déambula quelques minutes dans l'atrium, se laissant gagner par l'harmonie des courbes, la grâce aérienne de la construction. Les drôles d'ombres mouvantes et aquatiques que dessinaient les dalles de la verrière en se reflétant sur le sol la régénéraient comme un shoot de douceur et de chaleur. La jeune femme emprunta l'escalier et parcourut un labyrinthe opalescent, ponctué de puits de lumière qui desservaient une dizaine de galeries. L'accrochage mélangeait une exposition temporaire à des pièces de la collection permanente. Sur les deux premiers niveaux, on pouvait admirer les chefs-d'œuvre de la collection Schtchoukin. Des toiles fabuleuses de Cézanne, Matisse, Gauguin, que le collectionneur russe, faisant fi des critiques de son temps, avait courageusement rassemblées pendant près de 20 ans. Traversé par des poutres d'acier et des madriers en mélèze, le dernier étage se prolongeait par deux terrasses qui offraient des vues inattendues sur la Défense, le bois de Boulogne et la Tour Eiffel. C'est là qu'étaient exposés les deux tableaux de Lawrence, dans une salle où on trouvait aussi un bronze de Giacometti, trois toiles abstraites de Gerhard Richter et deux monochromes d'Elworth Kelly. 2. Allongée sur une lounge chair en cuir craquelé, les pieds posés sur une ottomane, les yeux clos, Gaspard écoutait une conférence de Sean Lawrence enregistrée sur une antique cassette audio dénichée au milieu des vinyles de la bibliothèque. Menée par Jacques Chancel, cette longue interview avait été réalisée 7 ans plus tôt lors d'une rétrospective de l'œuvre de Lorenz à la Fondation Meecht de Saint-Paul-de-Vence. L'entretien était passionnant et inédit tant il était rare que Lorenz, artiste secret et peu loquace, accepte de commenter son œuvre. Après avoir récusé à peu près toutes les interprétations qui avaient été faites de l'évolution de son travail, Lorenz avait prévenu « Ma peinture est immédiate, elle n'est porteuse d'aucun message, elle ne vise qu'à saisir quelque chose d'à la fois fugace et permanent. » À travers certaines de ses réponses, on percevait aussi sa fatigue, ses doutes, l'impression, avouait-il sans se cacher, d'être peut-être arrivé au terme d'un cycle créatif. Gaspard buvait ses paroles. Même s'il refusait de livrer la clé de sa peinture, Lorenz avait au moins le mérite de la franchise. Sa voix, tantôt enveloppante et envoûtante, tantôt inquiétante, faisait écho à la dualité et à l'ambiguïté de son art. Tout à coup, un bruit lourd et agressif déchira la quiétude de cette fin d'après-midi. Gaspard sursauta et se leva d'un bond avant de sortir sur la terrasse. La musique, provenant apparemment d'une des habitations voisines, envahissait la ruelle. Le son était brut, sale, saturé, engloutissant les hurlements violents qui tenaient lieu de chant. « Comment peut-on prendre plaisir à écouter une telle soupe ? » pesta-t-il en sentant une grande lassitude s'abattre sur lui. Impossible de profiter d'un moment de tranquillité. C'était un combat perdu d'avance. Le monde était rempli de casse-couilles, d'emmerdeurs de tout poil, de chieurs en tout genre. Les fâcheux, les gêneurs, les enquiquineurs faisaient la loi. Ils étaient trop nombreux, se reproduisaient trop vite. Leur victoire était totale et définitive. Emporté par sa colère, Gaspard se rua hors de la maison et, une fois dans l'impasse pavée, ne fut pas long à remonter la piste de l'importun. Le raffut provenait de l'habitation la plus proche, une bicoque bucolique croulant sous la vigne vierge. Pour se signaler, Gaspard tira la cloche rouillée fixée dans un pilier en pierre de taille. Comme personne ne se manifestait, il escalada le portail, traversa le jardinet et grimpa la volée de marches qui menait à la maisonnette avant de tambouriner à la porte. Lorsqu'elle s'ouvrit, Gaspard marqua un étonnement. Il s'était attendu à voir surgir un adolescent boutonneux, pétard aux lèvres et t-shirt d'Iron Maiden sur le dos. À la place, il découvrit une jeune femme aux traits délicats, vêtue d'un chemisier sombre à col Claudine, d'un short en tweed et chaussée de Richelieu en cuir bourgogne. « Ça ne va pas, la tête !» vociféra-t-il en martelant son crâne avec son index. Surprise, elle recula d'un pas et le regarda avec perplexité. « Votre musique !» hurla-t-il. « Vous vous croyez seul sur Terre ?»« Oui, ce n'est pas le cas. » Au moment où Gaspard comprit qu'elle se fichait de lui, elle appuya sur un bouton d'une petite télécommande qu'elle tenait au creux de la main. Enfin, le silence se fit. Je m'accordais une pause dans les corrections de ma thèse. Comme je pensais que tout le monde était parti en vacances, je me suis un peu lâché sur le volume, admit-elle en guise d'excuse. Une pause ? En écoutant du hard rock ? Et techniquement, ce n'est pas du hard rock, objecta-t-elle, mais du black metal. C'est quoi la différence ? Eh bien, c'est très simple. Vous savez quoi ? Je m'en fous, l'interrompit Gaspard en s'éloignant. Continuez à vous bousiller les tympans si ça vous chante. Mais achetez un casque pour ne pas torturer les autres. La jeune femme partit dans un fou rire. Vous êtes tellement impoli que c'en est même drôle. Gaspard se retourna. Une seconde, il se sentit décontenancé par la remarque. Il observa la fille, des pieds à la tête, un chignon sage, une tenue d'étudiante BCBG, mais aussi un piercing dans la narine et un tatouage sublime qui prenait naissance derrière son oreille pour disparaître sous son chemisier. Elle n'a pas tort. D'accord, admit-il, j'y suis peut-être allé un peu fort, mais franchement, cette musique... De nouveau, elle eut un sourire et lui tendit la main. Pauline de la Tour, se présenta-t-elle. Gaspard Coutances. Vous habitez dans l'ancienne maison de Sean Lorenz ? Je l'ai louée pour un mois. Une bourrasque fit claquer un volet. Les jambes nues, Pauline passait d'un pied sur l'autre en frissonnant. « Cher voisin, je commence à avoir froid, mais je serai ravie de vous offrir un café », proposa-t-elle en se frictionnant les avant-bras. Gaspard accepta d'un mouvement de tête et suivit la jeune femme à l'intérieur. 3. Immobile, Madeleine regardait les deux tableaux comme envoûtée par un sortilège. Datant de 1997 et intitulé « City on Fire », la première toile était une grande fresque typique de la période street art de Lorenz. Un brasier ardent, une peinture qui dévorait la toile, une déflagration de couleurs allant du jaune au rouge carmin. Motherhood, la deuxième toile, était beaucoup plus récente. Intime, dépouillée, elle représentait une surface bleu pâle, presque blanche, traversée par une ligne courbe qui figurait le ventre rond d'une femme enceinte. L'évocation la plus épurée de la maternité. Un cartel au mur précisait qu'il s'agissait du dernier tableau connu de Lorenz, réalisé peu avant la naissance de son fils. Contrairement à la toile précédente, ce n'était pas la couleur, mais la lumière qui faisait jaillir l'émotion. Répondant à une voix qu'elle était seule à entendre, Madeleine se rapprocha. La lumière l'appelait, la matière, la texture, la densité, les mille nuances de la toile l'hypnotisaient. Le tableau était vivant. En quelques secondes, une même surface passait du blanc au bleu, puis au rose. L'émotion était là, mais elle était insaisissable. Tantôt la peinture de Lorenz vous apaisait, tantôt elle vous inquiétait. Cette hésitation fascinait Madeleine. Comment une toile pouvait-elle faire cet effet-là? Elle essaya de reculer, mais ses jambes n'obéirent pas à son cerveau. Prisonnière consentante, elle ne souhaitait pas se soustraire à la lumière qui l'irradiait. Elle voulait encore trembler de ce vertige apaisant, demeurer dans cet espace amniotique et régressif qui vous transperçait et révélait de vous des choses que vous ne soupçonniez pas. Certaines étaient belles, d'autres nettement moins.